Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démontre les rouages de l'économie mondiale. Alors que la population de la planète ne cesse de croître, il n'y a jamais eu aussi peu de pauvres officiellement. Selon la Banque mondiale, qui fait référence en la matière, l'extrême pauvreté ne frapperait plus que 700 millions de personnes sur environ 7 milliards d'habitants, 10% du total et peut-être un peu moins, qui vivraient avec 2 dollars par jour au maximum. Un beau succès, puisqu'en plus, la communauté internationale est décidée à éradiquer totalement la pauvreté d'ici à 2030. Mais ces chiffres décrivent-ils fidèlement la réalité? Quand la guerre chasse des millions d'hommes, de femmes et d'enfants de Syrie, d'Irak, d'Érythrée ou du Soudan, quand les pays émergents connaissent eux aussi la crise, peut-on considérer que la pauvreté recule réellement? Et d'abord, qu'est-ce que la pauvreté? En existe-t-il une définition économique universelle? Une telle définition est-elle nécessaire? Voilà les questions et quelques autres que je vais poser aux trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Anne-Sophie Robillard.
Bonjour.
Anne-Sophie Robillard, vous êtes économiste à l'Institut de Recherche sur le Développement, l'IRD. Vous êtes donc économiste du développement. Vous avez travaillé un peu partout à travers la planète, à Washington, à l'Institut International de Recherche sur les Politiques Agricoles. Vous avez passé quelques années en Asie, 4 ans au Sénégal de 2008 à 2012. Et vous vous intéressez de près en ce moment au Mali et au Cameroun, de pays africains. Quand on travaille dans ces pays, on est forcé de s'intéresser à la pauvreté?
Oui, absolument. C'est une question importante quotidienne quand on travaille sur ces pays-là. On ramène presque tous nos travaux à cette question-là.
À vos côtés, Annabelle Hervieux dans ce studio.
Bonjour.
Bonjour. Annabelle Hervieux, vous êtes directrice adjointe du bureau de l'ONG One. C'est une ONG fondée par le chanteur Bono qui lutte contre l'extrême pauvreté, surtout en Afrique. Est-ce que votre organisation est présente sur le terrain ou est-ce que c'est seulement une organisation, comme on dit, de plaidoyer?
Alors, c'est seulement une organisation de plaidoyer, mais on est présent sur le terrain, entre guillemets, si ça peut se dire, puisque nous faisons du plaidoyer à la fois en Europe, aux États-Unis, mais aussi en Afrique.
De quelle manière?
C'est-à-dire qu'on mobilise aussi les citoyens africains pour demander des comptes à leur gouvernement et s'assurer que les gouvernements africains tiennent aussi leurs promesses, comme les gouvernements européens ou les gouvernements d'autres pays.
Alors, je termine ce premier tour de table par vous, Gilles Dufresneau, bonjour.
Bonjour.
Gilles Dufresneau, vous êtes professeur d'économie à l'Université d'Aix-Marseille. Vous êtes également chercheur au CEPI, associé au CEPI, l'un des principaux centres de recherche économique en France. Vous avez été conseiller à la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et vous travaillez en ce moment à l'écriture d'un ouvrage intitulé « Qu'ils mangent de la brioche » et qui se demande si les pauvres menacent le capitalisme. Qu'est-ce à dire exactement? Pourquoi que les pauvres mangent de la brioche?
Cela fait référence à un épisode de la Révolution française où vous aviez un certain nombre de pauvres qui étaient massés devant la demeure de Marie-Antoinette qui disaient « Mais qu'est-ce qu'ils ont ?» Elle disait « Mais... » Alors on lui répond « Il manque de pain » et elle dit « Mais qui mange de la brioche ?» Elle a répondu qu'il mange la brioche, qui montrait une certaine méconnaissance de la situation des pauvres. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est de me demander finalement, est-ce qu'il n'y a pas dans les pays une résilience? Quel est le degré de résilience des pauvres? Jusqu'à quelle est la masse de pauvres qu'un pays peut supporter au maximum avant que ça n'entraîne une rupture qui peut être soit une révolution, soit quelque chose de plus pacifique?
On en reparlera dans l'émission. Nous avons rendez-vous aussi avec les correspondantes de RFI dans le monde, Anthony Fouchard à Bamako, Charlotte Cosset à Kampala et Joël Bronner à Jakarta nous ont envoyé des reportages.
Qui peut aujourd'hui se satisfaire de la mondialisation comme elle va? Des inégalités, des injustices qui s'accroissent, une pauvreté qui s'aggrave?
Je voudrais saluer ici les efforts menés par la communauté européenne pour établir des relations plus justes avec les pays les plus pauvres, que l'Europe ne cesse d'entendre les appels venus de ceux qui menacent le dénuement.
La lutte la plus acharnée de mon gouvernement vise à éradiquer l'extrême pauvreté et à créer des opportunités pour tous.
Car au-delà des strictes questions climatiques, Cet accord va servir les grandes causes que sont la sécurité et la production alimentaire, la santé publique, la lutte contre la pauvreté, les droits essentiels et, en fin de compte, la paix.
Vous aurez reconnu successivement les voix d'Alain Juppé, c'était en 2003, puis du pape Jean-Paul II, de la présidente brésilienne aujourd'hui déchue Dilma Rousseff et de Laurent Fabius, c'était lors de la COP21 l'an dernier à Paris. Tous parlent de la pauvreté, mais cette pauvreté, quelle définition en donner Anne-Sophie Robillard? Qu'est-ce que c'est que la pauvreté?
Alors il y a plusieurs manières de définir la pauvreté. Il y a un consensus néanmoins sur une première mesure possible qui est la mesure de la pauvreté monétaire. Donc c'est un instrument, disons, qui permet de suivre, de mesurer, de suivre, de compter. C'est un outil statistique donc de suivi de la pauvreté qui a été mis en place dans les années 90, notamment par la Banque mondiale. Enfin, la Banque mondiale a fait un effort spécifique de créer un indicateur qui soit un outil de comparaison des pays entre eux et de l'évolution de la pauvreté dans ces pays-là.
Gilles Dufresneau ?
Oui, c'est exactement ce qui vient d'être dit. Hein. L'idée, c'est qu'on est pauvre, la première des choses, quand on ne mange pas à sa faim. Ce que la Banque mondiale a essayé de faire, c'est de définir quels sont les produits de base dont on a besoin pour vivre, essayer de quantifier ça. Et ça donne à l'arrivée ce chiffre qui est très commenté de 1,92 $ qui définit un seuil de pauvreté. Voilà.
Mais au fil des années, on a parlé de différents chiffres, 1,25 $, 1,50 $, on en est à 2 $, mais vous parlez d'1,92 $?
Oui, 2 $ à peu près. C'est normal que ce chiffre soit révisé, tout simplement pour tenir compte de l'inflation, parce que, évidemment, les niveaux de vie des pays évoluent, et on doit tenir compte de l'inflation, parce que en 10 ans, le prix des produits alimentaires augmente. Évidemment, la conséquence, c'est que ça a tendance, même si la pauvreté en masse diminue, le nombre de pauvres diminue, le fait de rehausser le seuil peut avoir comme conséquence que le nombre de pauvres augmente, ce qui est un peu le paradoxe. Ce qui est un peu le paradoxe, c'est justement ce qui est discuté.
Annabelle Hervieux, pour l'ONG One, vous, la pauvreté, comment la définiriez-vous ?
Alors, nous, on utilise, comme tout le monde, cet indicateur de la Banque mondiale. Ensuite, voilà, la pauvreté en tant que telle, effectivement, c'est un concept multidimensionnel, puisque c'est effectivement ce manque d'accès matériel à la nourriture ou à d'autres biens essentiels. C'est aussi le manque d'accès à des services essentiels, qui sont la santé et l'éducation, par exemple. Et c'est aussi le manque d'accès, je dirais, à la démocratie ou à le droit d'exprimer, d'avoir un droit de regard sur, finalement, sa vie et comment son avenir va évoluer.
Anne-Sophie Robillard, est-ce que au Vietnam, à Madagascar, au Cameroun, au Mali, ces 2 $ correspondent à la possibilité d'acheter le même nombre, la même quantité de produits alimentaires, par exemple?
C'est l'esprit de la méthode, c'est-à-dire d'essayer de trouver un indicateur comparable, donc qui permette à des ménages, à des individus dans ces différents pays, d'acheter un panier de biens comparables. Donc c'est une vraie difficulté technique de créer cet indicateur. Ça pose toutes sortes de questions. C'est un indicateur qui est discuté par les spécialistes de ces questions-là, et c'est aussi un indicateur politique après. Donc il y a d'autres.
Mais qu'est-ce qui fait qu'à 1,80 $ on serait pauvre et à 2,10 $ on serait sorti de la pauvreté?
Alors bien sûr c'est un seuil, donc on l'utilise comme tel, mais on peut autour de ce seuil créer d'autres indicateurs qui décrivent quels sont les aspects d'éloignement de la pauvreté. Donc on n'a pas un seul outil, on en a plusieurs en réalité. Mais ça ancre une réalité qui est donc la possibilité de consommer quelque chose de minimum, donc un minimum vital en fait.
Gilles Dufresneau, à 2,10 $ on est sorti de la pauvreté?
Pas vraiment, parce que. Disons que les 2 $, c'est une façon de délimiter ce qu'on appelle l'extrême pauvreté. C'est que vraiment, quand on descend en dessous, on a un risque vital. Maintenant, vous savez qu'il y a d'autres seuils, par exemple, pour définir ce qu'on appelle les travailleurs pauvres dans le monde, et il y en a beaucoup. Le seuil, c'est, l'ONU le met à 3,90 $. Vous avez également d'autres indicateurs où on considère la richesse prise globalement pour définir ce que c'est qu'un pays à revenu faible, où on va trouver donc on considère par exemple que tous les pays dans lesquels annuellement le revenu national est inférieur à 975 $
par habitant,
fait partie de la catégorie des pays à revenus faibles. Donc là où on va trouver effectivement les pays pauvres. Donc il y a une diversité d'indicateurs, mais ils disent tous la même chose. Me semble-t-il.
Oui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils disent ?
Et ils disent tous qu'en deçà d'un certain niveau de revenu, on est pauvre, on manque du vital en matière d'alimentation. Voilà.
Annabelle Hervieux ?
Oui, l'importance finalement de cet indicateur, c'est surtout son utilisation. Et c'est effectivement pouvoir calculer le nombre de progrès qu'on va faire par rapport à ça et se fixer des objectifs aussi d'un point de vue politique.
C'est-à-dire que c'est un instrument de communication ?
Pas de communication, de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États se sont engagés l'année dernière à mettre fin à l'extrême pauvreté d'ici à 2030, dans le cadre des objectifs du développement durable. Et comment calculer finalement cet objectif ? C'est en utilisant cet indicateur, des $1.90. Donc voilà, on peut effectivement le critiquer ou en débattre, etc. Il y a clairement des lacunes, notamment du fait qu'on n'ait finalement pas beaucoup de données pour pouvoir vraiment alimenter cet indicateur, mais l'avantage, c'est que effectivement, il permet de voir une progression, de voir une évolution. Donc, depuis les années 90, on estime que il y a une baisse de 65% des personnes qui vivent sous ce seuil d'extrême pauvreté. Donc, c'est très positif. Et maintenant, l'objectif, c'est de voir comment on va arriver justement à ce seuil de niveau zéro en 2030.
Alors, allons voir l'un de ces pays pauvres, le Mali, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique et donc du monde. Il vient de publier récemment des statistiques. 47% de sa population vivrait dans la grande pauvreté avec moins de $2 par jour. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Anthony Fouchard à Bamako.
Dans tous les quartiers de Bamako, les échoppes comme celle de Monsieur Seri Fomba sont partout. Quelques tôles ondulées, un bout de toile en guise de toit et une étagère en bois où s'entasse pêle-mêle l'indispensable du quotidien.
Je suis un commerçant d'État.
Alors qu'est-ce que vous vendez par exemple dans votre petit commerce ?
Je vends des laits, des sucres, des bonbons, des petites bricoles. Ces derniers mois, ça ne va plus. Le commerce est assis totalement. Les gens n'ont pas d'argent. Avant, je pouvais gagner 60 000 par mois, mais aujourd'hui, 20 000, 15 000.
Pour survivre avec ses 12 enfants et petits-enfants, M. Seri Fomba les a mis au travail. Impossible de payer l'école pour tous. Son commerce lui rapporte trop peu.
Ça, c'est pour 50 francs de sucre. Ça, c'est le parfum de 1000 francs. Ça, c'est le lait de 1700.
Ça, c'est un peu cher, alors.
Oui, ça, c'est le plus cher. Ça, c'est les biscuits de 500.
Quand vous vendez un paquet de biscuits à 500, vous, qu'est-ce que vous gagnez dessus ?
À 500, je gagne 50 francs.
Et sur le lait, par exemple ?
Sur le lait, j'ai gagné 100 francs.
C'est vraiment très, très peu.
Voilà. On se débrouille par jour. Les enfants, madame, le matin, on sort. Tout le monde se débrouille. La nuit, ce qu'on a gagné, on mange.
Au Mali, la pauvreté est calculée sur la base des dépenses. Si une personne dépense moins de 177 000 francs par mois, elle est considérée comme pauvre. C'est le cas de près de la moitié de la population. Mamadou Sogodogo est fonctionnaire. Son salaire est à peine supérieur à l'indice de pauvreté. Alors il cumule deux emplois pour s'en sortir.
Je suis ingénieur en informatique. Là, je peux gagner des prestations de gauche à droite que je les fais en privé. Donc cela me permet de jongler de bout à bout les mois.
Djelika Togola, elle, est une maraîchère. Elle travaille dans le sud du Mali depuis quelques années. Elle a quitté Bamako car le salaire n'était pas assez élevé.
Avec ce travail, je gagne 1000 francs par jour, 30 000 francs à la fin du mois. C'est deux fois plus qu'à Bamako. Avec ça, je peux préparer mon mariage. Alors, je ne suis pas riche, mais je m'en sors, ça va.
Au Mali, selon l'Institut national de la statistique, cela va mieux d'année en année, mais un habitant sur deux n'est toujours pas raccordé au réseau électrique. Quant à l'eau potable, 15% de la population n'y a pas accès.
Alors, c'était un reportage signé Anthony Fouchard à Bamako. Rappelons quelques chiffres qu'il a cités. La maraîchère qu'on a entendue se considère plutôt à l'aise avec 30 000 francs CFA par mois. Cela fait 45 euros environ. Au début du reportage, le commerçant en gagne la moitié. Et ce que disait Anthony Fouchard, c'est que le gouvernement considère qu'en dessous de 177 000 CFA par mois, c'est-à-dire 270 euros, 9 euros par jour, on est pauvre. C'est très au-dessus du seuil de $2 de la Banque mondiale qu'on a évoqué tout à l'heure. Anne-Sophie Robillard, pourquoi ces différences ?
Il y a différents aspects, il y a différentes dimensions. Il y a le problème de comparer au sein d'un pays des gens qui vivent avec des moyens différents. Là, quand on évoque des revenus, il faut prendre en compte le fait qu'on est dans des ménages potentiellement avec des revenus de différentes sources. Et puis, on n'a pas non plus accès aux mêmes sources de consommation. Il y a des agriculteurs qui produisent une partie qui consomment une partie de ce qu'ils produisent. Après, les objectifs de suivi au niveau national et international sont légèrement différents. C'est toujours politique, c'est-à-dire c'est un indicateur comme le chômage est un indicateur en France. C'est éminemment politique de ce point de vue-là. Mais chaque pays a une souveraineté à définir ce que c'est pour le pays en question un seuil acceptable. Et en effet, dans le cas du Mali, ce seuil-là est supérieur au seuil de 2 dollars par jour. Mais qui correspond à peu près à ce que gagnait la maraîchère d'ailleurs, parce que 1000 francs CFA, c'est le seuil défini par la Banque mondiale.
Mais alors, pourquoi le gouvernement malien décide-t-il de mettre son seuil de pauvreté à lui à cette somme de 270 euros, c'est-à-dire 9 euros par jour, 4 fois supérieur à celui de la Banque mondiale? Quel est l'intérêt?
C'est un seuil plus exigeant, évidemment. Il y a peut-être aussi des objectifs politiques dans la manière dont ensuite le pays va être considéré vis-à-vis de l'aide internationale. C'est quelque chose qu'il faudrait approfondir, c'est-à-dire quels sont les seuils utilisés pour définir la position des pays en matière d'aide internationale, ça peut être aussi un critère.
Gilles Dufresneau, pourquoi est-ce qu'au Mali, la pauvreté est considérée en dessous de 9 dollars et pas de 2?
Il y a plusieurs approches. Hein. Il y a soit une approche par le revenu, ce que gagnent les gens, mais bon, là on peut avoir des incertitudes. Maintenant, il y a une autre approche par la dépense, c'est-à-dire que on peut voir ce qu'est un pauvre ou pas, quelqu'un qui est pauvre ou pas, en regardant quel est le montant de sa dépense. Bon, ça c'est la première distinction. La deuxième distinction, c'est extrême pauvreté et pauvreté. Je pense que au Mali, on parle des pauvres, on ne dira pas des pauvres extrêmes, mais des pauvres. Donc 9 dollars, quand on dépense en dessous de 9 dollars, on est pauvre quand même. On ne va pas mourir, mais on est quand même pauvre. Et à mon avis, pour un gouvernement, c'est ce qui est important.
Ces 700 millions de personnes qui vivent avec 2 dollars par jour au maximum, est-ce que c'est un chiffre qui reflète la réalité, Annabelle Hervieux? Est-ce que vous pensez qu'il est fidèle à ce qui se passe sur le terrain?
Je pense qu'il reflète la réalité d'après les informations qu'on a. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, un des problèmes, c'est notamment qu'on a un gros problème d'accès aux données. Il y a une très forte augmentation des données à travers le monde, notamment grâce aux nouvelles technologies, etc. Cet accès-là n'a pas été, bénéfique pour tous les pays du monde et notamment pour les pays les plus pauvres. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a vraiment un gros problème de suivi dans le détail des indicateurs de développement au niveau des pays en développement. On sait notamment que plus de 80% des données en Afrique subsaharienne ne sont pas distinguées par genre, c'est-à-dire entre les hommes et les femmes. Ce qui est un problème vraiment important dans le sens où pour pouvoir progresser, il faut savoir où on doit mettre les efforts en priorité. Et si on n'a pas les informations sur exactement est-ce que les femmes ou les hommes bénéficient plus ou moins de l'accès à la santé ou à l'éducation, on peut pas non plus définir des projets qui soient le plus précis et le plus efficace possible.
Anne-Sophie Robillard, vous aviez pas l'air tout à fait d'accord?
Disons qu'il y a eu, il y a quand même un gros progrès hein, depuis les années 90. Donc 91, c'est la date de sortie de cette ligne de pauvreté de 1 dollar par jour, qui aujourd'hui est devenue 2 dollars par jour du fait des ajustements de prix dont parlait Gilles. Aujourd'hui, on a à disposition quand même des données statistiques au niveau des ménages pour 130 pays en développement. Donc c'est quelque chose d'énorme et c'est quelque chose qui est accessible. Quand je dis que la question est politique, ça, elle vient avec une exigence. C'est-à-dire que la Banque mondiale s'est fait producteur d'une information statistique, mais elle donne les outils normalement à tous les chercheurs de vérifier le travail qui est fait, le calcul qui est fait. Et donc cet aspect d'accès aux données, d'accès aux méthodologies utilisées est très important. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un problème de qualité des données, et c'est d'autant plus problématique dans les pays pauvres qui ont moins de moyens, des agences de statistiques qui essaient de faire face aux demandes politiques qui sont de plus en plus importantes pour le suivi, pour l'évaluation, mais avec des budgets en baisse, etc. Mais il y a des gros projets, de Data Revolution par exemple, d'essayer de garantir l'accès aux données dans tous les pays et de garantir l'accès à cette information.
Nous continuons cette conversation dans quelques minutes après un flash d'actualité. C'est en effet la fin de la première partie de cette émission. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Idée.
La philosophe.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré à la pauvreté et à la définition de la pauvreté. Trois invités dans ce studio. Annabelle Hervieux, directrice adjointe du bureau parisien de l'ONG One. Anne-Sophie Robillard, économiste du développement à l'IRD, l'Institut de recherche sur le développement. Et Gilles Dufresneau, professeur d'économie à l'université Aix-Marseille. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons vu que la définition de la pauvreté était parfois flottante et que le seuil de 2 dollars en deçà duquel on était réputé pauvre ne correspondait pas toujours à la réalité. Dans ces conditions-là, quand les organisations internationales fixent des objectifs très ambitieux, par exemple éliminer la grande pauvreté à l'horizon 2030, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est réaliste, Annabelle Hervieux ?
Oui, c'est réaliste. La pauvreté n'est pas une fatalité. Il y a effectivement une situation qui est assez grave aujourd'hui, mais les progrès qu'on a réalisés au cours des 30 dernières années montrent qu'on peut, si on continue sur cette tendance, atteindre le niveau zéro en 2030. Et ensuite, c'est plutôt une question de est-ce qu'on va mettre les moyens, est-ce qu'on va mettre surtout la volonté politique pour arriver à cet objectif-là.
Anne-Sophie Robillard, c'est réaliste cet objectif ?
C'est un objectif ambitieux, mais c'est un objectif qu'on doit se fixer si on veut y arriver, en tout cas. C'est nécessaire d'afficher cela comme ambition. Et après, encore une fois, il y a les moyens et puis il y a les bonnes politiques.
Annabelle Hervieux, est-ce que la communauté internationale se donne vraiment les moyens ?
D'après le dernier rapport publié par One, a mis sur la table 131 milliards d'aides au développement en 2015. C'est en augmentation, petit à petit, chaque année. C'est assez inégal entre les différents pays donateurs. Ça reste insuffisant par rapport à l'évolution, par contre, du monde, et notamment de la multiplication des facteurs de pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a l'extrême pauvreté. On voit aujourd'hui aussi les changements climatiques qui vont exacerber l'extrême pauvreté, les conflits. Donc il y a aujourd'hui un vrai besoin de mettre d'une part plus d'argent sur la table, parce qu'avant tout c'est une question d'argent.
Vous le chiffrez, vous savez le chiffrer, ce besoin d'argent, oui.
Les besoins dans leur intégralité, c'est difficile à chiffrer, mais par contre, on peut donner un chiffre. Les Nations Unies, le Bureau humanitaire des Nations Unies, a chiffré à 40 milliards à peu près les besoins humanitaires sur un an. En 2016, à la moitié de l'année, on était à 33% de financement uniquement sur cette enveloppe-là. L'année dernière, enfin en 2015, pardon, les besoins humanitaires ont été couverts qu'uniquement à 50%. Donc il y a vraiment un défaut de financement, alors qu'il y existe des solutions et des moyens financiers aussi innovants qu'on pourrait mobiliser pour faire face à ça.
Gilles Dufresneau, c'est réaliste cet objectif de 2030 ?
Alors je pense qu'il est réaliste, mais surtout il est urgent. C'est-à-dire que on peut pas, à mon avis, fixer une date qui soit trop lointaine parce que il y a des gens qui meurent tous les jours. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que malheureusement, quand on est pauvre, ça implique plusieurs dimensions. Il faut pas oublier qu'il y a une urgence évidemment pour l'alimentation, mais il y a aussi une urgence pour la santé et il y a également une urgence pour l'accès à l'électricité et à l'eau qui, à mon avis, va devenir le problème numéro un. Donc, cet horizon de 2030, à mon avis, il est réaliste, mais surtout, c'est un très bon moyen de faire une bonne pression pour aller vite, parce qu'il y a vraiment une urgence.
Mais vous voulez dire qu'il faut aller plus vite que 2030 ?
Je pense qu'il faut aller plus vite que 2030, parce que sinon ça peut poser des problèmes. Je voudrais juste rappeler quelque chose en ce qui concerne l'accès à l'électricité. Bien sûr, on pense à l'alimentation, mais beaucoup d'aspects de la pauvreté sont liés à l'électricité et à l'accès à l'eau. Parce que, par exemple, quand on n'a pas accès soit à l'eau, soit à l'électricité, on rencontre des problèmes de santé, d'éducation, etc. Les perspectives que l'on a, je vais juste comparer le continent latino-américain avec le continent africain. Sur à peu près 30 ans, on compare le début des années 2000 et puis ce qu'on prévoit en 2030. Au début des années 2000, en Amérique latine, vous aviez 46 millions de personnes qui n'avaient pas accès à l'électricité. En 2030, ce sera à peu près une vingtaine de millions. Donc là, on aura diminué par deux.
Sans prendre en compte l'augmentation de la population.
Sans prendre en compte l'augmentation de la population. Alors maintenant, sur l'Afrique, les chiffres sont inversés. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, il y avait 526 millions de personnes qui n'avaient pas accès à l'électricité. Le pronostic en 2030, c'est 584 millions. C'est vraiment urgent. C'est-à-dire plus de monde. Et l'Asie, ça stagne. On est autour de 780 et quelques millions et ça stagne. Donc, il faudrait même aller plus vite que 2030. C'est important.
Annabelle Hervieux ?
Non, je suis tout à fait d'accord. Enfin, il y a vraiment effectivement des urgences sur de nombreux domaines. Et les facteurs sont reliés entre eux. Et aujourd'hui, c'est vrai que la communauté internationale a tendance à se reposer sur ses lauriers, sur une tendance positive, voilà, avec toujours aussi une excuse des crises budgétaires, etc., etc., qui sont toujours bonnes à ressortir pour justifier de baisse du budget d'aide au développement. Mais je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui rester sur notre propre territoire. On fait partie d'un monde qui, voilà, avec des facteurs qui peuvent avoir chacun des conséquences pour les populations les plus pauvres et pour tous les habitants de la planète. Et on ne peut pas juste se dire en 2030, ça ira mieux.
Mais on sait tous que la Chine a connu depuis 40 ans une croissance économique exponentielle, que le pays regorge de milliardaires et que la classe moyenne chinoise se compte par centaines de millions de personnes. Est-ce que c'est pas ça le phénomène qui a permis de réduire la pauvreté, les chiffres de la pauvreté dans le monde ? Plus que l'aide internationale aux pays africains ou latino-américains ou asiatiques les plus pauvres, Anne-Sophie Robillard.
C'est en effet les progrès de la Chine qui sont en grande partie responsables du fait qu'on a atteint le premier OMD en 2010, donc 5 ans en avance, entre guillemets, parce que c'est une masse de population importante et que donc les progrès chinois ont conduit au niveau international à l'atteinte de cet objectif, ce dont tout le monde s'est félicité. Dans la nouvelle version des objectifs, dans les SDGs, on a ajouté un objectif qui est intéressant et qui est en lien avec la pauvreté, qui est l'objectif de réduction des inégalités, qui est l'ODD numéro 10.
L'objectif du développement durable.
Pardon, oui, objectif de développement durable qui remplace les objectifs du millénaire. Et donc ce nouvel objectif pose la question de à quel niveau d'inégalité, comment faire en sorte que les inégalités soient réduites, ne progressent pas plus, dans différentes dimensions.
Alors nous partons maintenant en Indonésie, 250 millions d'habitants, où un habitant sur 9 vit actuellement sous le seuil de pauvreté. Au pouvoir depuis 2 ans, le président Joko Widodo a fait de la lutte contre cette pauvreté une de ses priorités. Symbole de cet engagement, l'introduction d'un système de carte de sécurité sociale. Celles-ci permettent aux plus modestes des Indonésiens d'avoir un accès gratuit aux soins. À Jakarta, donc, c'est un reportage, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Joël Brunet.
Devant un centre de soins publics du centre de Jakarta, à 2 pas de la route et du trafic, plusieurs dizaines de patients attendent de rencontrer un médecin pour une consultation médicale. Parmi eux, presque tous disposent d'une de ces nouvelles cartes introduites il y a 2 ans par le président Jokowi, qui leur permet de se faire soigner à prix réduit ou gratuitement. C'est le cas de Sugiono, 57 ans. Le numéro 77 de la file d'attente s'est déplacé pour le suivi de son opération de la cataracte.
Ah, elle est très chère cette opération. Sans cette carte de soins, je ne pourrais pas me le permettre. D'autant que ce n'est pas un seul œil, mais les deux que je dois soigner. Ma femme et mes 2 enfants aussi ont cette carte, mais eux, ils l'utilisent pour de simples visites médicales. Je suis le seul à m'en servir pour me faire opérer.
Une simple visite médicale qui, dans la capitale, représente quand même un coût compris entre 15 et 30 euros. Une somme pour beaucoup de bas revenus. Pour Tuti Ningxi, par exemple, ce serait trop. Son mari, revendeur de bois, n'assure à leur foyer qu'une poignée d'euros par mois. Un salaire extrêmement modique qui leur permet à présent, grâce à leur carte de sécurité sociale, un accès aux soins gratuits à 100%. En attendant son tour au centre de soins, Tuti Ningxi transpire à présent à grosses gouttes sous sa chemisette bombée. Le lendemain, cette femme au foyer de 34 ans doit à nouveau subir une césarienne pour accoucher de son 3e enfant.
Cette carte, soit il faut cotiser tous les mois pour y avoir droit, soit elle est gratuite. Pour moi, heureusement, elle est totalement gratuite. Pour mon 1er enfant, il y a 9 ans, cette carte n'existait pas. Et pour la césarienne, j'avais dû dépenser à l'époque près de 500 euros, ce qui était vraiment énorme pour moi.
Quelques années avant l'arrivée au pouvoir du président indonésien Jokowi, précisons qu'une autre carte de soins permettant aux plus pauvres de se soigner sans frais avait déjà été mise en place. Mais sa notoriété était faible, son expansion limitée, et au final son impact et son efficacité ont été jugés relativement anecdotiques. Cette nouvelle carte, en revanche, destinée au plus grand nombre avec ses différents paliers de cotisation, est considérée comme bien plus ambitieuse. Et contrairement à la carte précédente, une majorité d'Indonésiens connaît son existence et les bas revenus la plébiscitent. Même s'il faut souligner tout de même que dans les centres de soins privés, les porteurs de cette carte, qui ne payent donc pas directement, sont encore souvent considérés avec moins d'attention par le personnel médical. comme des patients de seconde zone en quelque sorte.
C'était un reportage à Jakarta signé Joël Bronner dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Nous parlons de la pauvreté, de sa définition, de la manière dont cette définition conditionne les modalités de la lutte contre ce fléau. Trois invités pour en parler. Anne-Sophie Robillard, économiste à l'Institut de recherche sur le développement, Annabelle Hervieux, directrice adjointe du bureau parisien de l'ONG One, et Gilles Dufresneau, professeur d'économie à l'Université Aix-Marseille. Dans son reportage, Joël Bronner évoquait la création de cette carte de sécurité sociale. Est-ce que le fait d'accéder gratuitement à des soins permet aux Indonésiens les plus modestes, ou à des Camerounais, ou à des Africains en général, d'accéder à un niveau de vie supérieur à ces 2 dollars, Annabelle Hervieux? Est-ce que ces 2 dollars peuvent prendre en compte des services gratuits qui sont fournis par l'État, des fondations, etc.?
Alors, je trouve que l'initiative est très intéressante, mais là encore, ça pose la nuance qu'avait amené mon collègue. C'était la question notamment de l'extrême pauvreté.
Votre collègue, c'est Gilles Dufresneau.
Oui. Merci. La question de la différence entre l'extrême pauvreté et la pauvreté. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir accès à ces soins de santé, il faut qu'ils existent, en fait. Et quand on parle d'extrême pauvreté, on parle de pays dans lesquels, potentiellement, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'hôpitaux. Donc, il y a, je dirais, 2 étapes. C'est-à-dire déjà pouvoir financer le développement de services de santé et ensuite permettre l'accès à ces services, justement, grâce à l'accès aux soins gratuits qui devrait être, effectivement, justement, une base.
Alors, on va interroger le collègue Gilles Dufresneau. Qu'est-ce qu'il en pense de cette question? Est-ce que quand une personne a 2 dollars, plus des services de soins, plus des services éducatifs, est-ce qu'elle est toujours considérée comme pauvre?
Oui, elle n'est pas extrêmement pauvre, mais elle reste pauvre néanmoins. Ce que je voudrais, moi, souligner, c'est que l'intérêt de la couverture sociale, c'est un grand intérêt parce que ça permet de sortir de la pauvreté comment? Parce que lorsque vous avez plus facilement accès à des soins, vous êtes soigné, vous devenez plus productif, on va dire ça humainement, vous avez accès à des emplois de meilleure qualité, donc c'est un très bon moyen indirect de sortir de la pauvreté.
Collectivement?
Collectivement.
Anne-Sophie Robillard, vous connaissez l'Indonésie, Jakarta, ce reportage, qu'est-ce qui vous inspire?
Pour revenir un peu à la question que vous posiez précédemment, il faut pas faire dire à l'indicateur des 2 dollars tout. Je pense que les objectifs du développement durable sont multiples et reflètent la multiplicité des dimensions de la pauvreté. Donc le 2 dollars, ça concerne la consommation. Après, il y a la question de l'accès aux soins, il y a la question de l'accès à l'éducation, la question de l'accès aux services. Donc je pense pas qu'il faille vouloir tout résumé en un seul indicateur, et tout le monde a conscience qu'on a besoin d'une multiplicité d'indicateurs. Après, savoir s'il faut les combiner ou pas dans des indicateurs de pauvreté multidimensionnelle, pardon, c'est une autre question. Non, sur l'Indonésie, c'est en effet un pays qui est arrivé à un niveau de revenu intermédiaire, qui lui permet de mettre en place des services, enfin, qui a des services déjà en place depuis longtemps, qui a des niveaux d'éducation relativement élevés, et qui maintenant fait plutôt... Ce que disait Annabelle, fait plutôt face à des problèmes de demande, c'est-à-dire essayer de donner accès à ces services qui existent déjà, qui sont en place, qui fonctionnent, donner accès à ces services aux plus pauvres. Donc c'est en effet une autre facette du problème et à laquelle l'Indonésie est parvenue.
Est-ce que l'Afrique réussit à mettre en place des services similaires, Gilles Dufresneau?
Alors malheureusement, pour l'Afrique, c'est beaucoup plus compliqué. Je crois que les problèmes se trouvent d'abord du côté de l'offre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de plateau médical, des dispensaires qui fonctionnent comme ils devraient fonctionner. Donc en Afrique, il y a d'abord un problème d'infrastructure médicale, donc il faut d'abord qu'il y ait l'offre pour pouvoir offrir aux gens des services adéquats. Je précise que c'est en lien avec ce que disait Anne-Sophie, lié au fait que beaucoup de pays africains font partie des pays sont dans la catégorie des pays les moins avancés, donc ça peut se comprendre que ce genre de politique. Bon, même s'il y a des pays où on réfléchit à ça, le Bénin par exemple réfléchit aussi à mettre en place ce genre de couverture pour sa population.
Dans l'introduction de l'ouvrage dont vous êtes l'auteur et qui n'a pas encore d'éditeur, et que je citais tout à l'heure en introduction de l'émission, Gilles Dufresneau, vous écrivez qu'au cours des années à venir, les décideurs de la planète vont avoir à se demander quelle masse de pauvres une société peut supporter. Ça veut dire quoi?
Et ça veut dire que... il faut surtout pas s'endormir et que historiquement l'histoire nous montre que les ruptures que vous pouvez avoir dans le fonctionnement des sociétés peut être liée à la masse de pauvres qu'on a. C'est-à-dire que le pauvre, c'est quand même quelqu'un qui participe à la vie économique, qui travaille, etc. Et à un moment donné, vous pouvez vous poser la question de savoir finalement qu'est-ce que vous retirez du système. Vous travaillez 12 heures par jour, vous travaillez 14 heures par jour, vous gagnez moins de 2 dollars. Est-ce que ça vaut le coup ? Vous voyez qu'un certain nombre de personnes quittent leur pays parce que fondamentalement, ils n'arrivent pas à y vivre. Ils émigrent, en tout cas ils essaient d'immigrer et ça se passe également mal parce qu'ils sont mal accueillis, etc. Donc la question c'est, est-ce qu'on est dans des sociétés qui ont, quel est le degré de résilience en fait des sociétés à leurs pauvres?
Et finalement, de tolérance,
c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas un seuil au-delà duquel ça risque d'être très difficile? Voilà, c'est la thèse que...
C'est une que vous défendez.
Que je défends avec...
Anne-Sophie Robillard, vous pensez qu'il y a des pays qui tolèrent d'avoir des grandes masses de pauvres chez eux?
Je pense qu'il y a, plusieurs aspects dans cette question-là, et notamment, en effet, la question de la pauvreté, et puis la question de la démographie aussi. Ce qu'on montre, disons, dans la recherche qui porte sur ces questions, c'est que des masses importantes de certaines catégories de jeunes, enfin notamment des jeunes dans la population... qui ont par ailleurs des difficultés d'accès à l'emploi, etc., ça peut poser des problèmes de stabilité politique. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est aussi les inégalités. Les inégalités, c'est un facteur d'instabilité.
Annabelle Hervieux.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de pauvreté, mais on réfléchit aussi de plus en plus à la notion de vulnérabilité, qui essaie de prendre de manière plus large les aspects qui sont des facteurs de déstabilisation de pays, de zones géographiques, et qui, justement, vont finalement s'exacerber les unes les autres. Si on prend juste l'exemple du lac Tchad, c'est une zone qui subit des changements climatiques très forts et qui fait que la ressource en eau autour du lac est amoindrie. Une extrême pauvreté aussi structurelle dans cette zone-là, plus une instabilité, enfin je dirais même plus qu'une instabilité, des extrêmes violences liées notamment à la présence de Boko Haram. Tous ces facteurs-là engendrent en fait des potentielles poudrières dans un sens pas uniquement en termes de violence, mais aussi en termes de pauvreté et en termes de déstabilisation. Donc les facteurs, aujourd'hui, on doit pouvoir les prendre en compte dans leur intégralité et pas uniquement se focaliser sur l'aspect économique.
Gilles Dufresneau ?
Je suis entièrement d'accord. Et moi, je vais même plus loin parce que je considère qu'il y a une dimension géopolitique de la pauvreté. Quelque part, nous sommes tous... Alors, il ne s'agit pas de faire son examen de conscience, mais nous sommes aussi à l'échelle, on va dire, macroéconomique et géopolitique responsable de la pauvreté. Je prendrai un exemple. Vous savez qu'il y a le prix Nobel d'économie, Angus Deaton, qui défend cette thèse aussi, de l'échange inégal. Ça veut dire que une masse de pays pauvres sont des pays dont la croissance est malheureusement liée uniquement à leurs ressources naturelles, les pays qui exportent des matières premières. Bon, exporter des matières premières, c'est une très bonne chose, mais ce n'est pas là qu'il y a de la valeur ajoutée. Et c'est d'ailleurs ce qui explique la différence entre les pays asiatiques qui ont fonctionné et les pays africains. Donc, on peut imaginer un système où, au lieu d'encourager les pays à exporter les matières premières, on les encourage à les transformer à un minimum, de telle façon que se traduisent par une valeur ajoutée qui soit un petit peu plus élevée. Donc, ça veut dire que il y a aussi cette dimension géopolitique. Et là, on doit tous faire quelque chose. C'est quelque chose qui peut être négocié, mais à l'échelle internationale.
Parce que ça a été déjà tenté par de nombreux pays africains, sans grand succès.
Alors, je ne suis pas certain que c'était tenté par de nombreux pays africains, pour une raison qui est assez simple, c'est que, vous voyez, je prends un exemple assez simple, je prends toujours le même exemple, du cacao. Le chocolat est quelque chose qui est consommé par tout le monde dans le monde. Idéalement, ce serait, si je m'appelle la Côte d'Ivoire, idéalement, c'est moi qui devrais vendre le chocolat à tout le monde. Mais je ne peux pas le faire parce que je coupe le marché d'un certain nombre d'entreprises, de multinationales, etc. Donc, il y a des intérêts géopolitiques et économiques en jeu qui font que c'est pas nécessairement facile.
Annabelle Hervieux.
Oui, juste pour rebondir là-dessus, effectivement, je suis complètement d'accord aussi. On voit notamment sur l'Afrique, on avait publié un rapport il y a 2 ans là-dessus, sur la question de l'agriculture, qui est le premier secteur économique en Afrique.
Et aussi là où il y a le plus de pauvres.
Et là aussi, où il y a le plus de pauvres, effectivement. Et justement, parce que ça reste un secteur qui voilà, reste à un niveau assez basique, où la matière première est tout de suite exportée et n'est pas transformée sur place. Et c'est un potentiel économique énorme. C'est-à-dire qu'on pourrait créer des emplois en transformant cette matière première et créer aussi de la richesse. Et on sait que ça serait un facteur de lutte contre l'extrême pauvreté très puissant si on investissait davantage dans l'agriculture, par exemple.
Ce qui fait parfois la différence entre ceux qui sont pauvres et ceux qui ne le sont pas ou plus, c'est l'entrée sur le marché du travail. Exemple, en Ouganda, où près de 80% de la population n'a pas 30 ans, un des pays au monde avec la population la plus jeune, très touchée par le chômage, évidemment. La formation de ces jeunes est donc une priorité pour lutter contre la pauvreté, mais les efforts du gouvernement sont insuffisants et des initiatives privées voient le jour. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Charlotte Cosset à Kampala.
Nous rencontrons Maurice Kabouyé dans un café de la capitale où il avait rendez-vous avec un futur collaborateur. Cet homme de 33 ans est informaticien. Il a fait des études grâce à une ONG.
Mon père est mort et ma famille a été déplacée pendant la guerre. Ma mère a eu 10 enfants. Quand j'ai rejoint l'African Children's Choir, j'étais le seul de toute ma famille à aller à l'école. J'ai beaucoup voyagé avec la chorale un peu partout dans le monde et je suis rentré chez moi avec une formation.
Et si vous n'aviez pas eu cette aide, que feriez-vous aujourd'hui ?
Je ne sais pas. La majorité des gens avec qui je vivais avant de rejoindre la chorale, je n'en connais plus que 3. Les autres sont morts. Je me demande si ça n'aurait pas été la même chose pour moi.
Aujourd'hui, il a décidé d'aider à son tour à travers son organisation Siyabonga. C'est un projet qui a débuté il y a 7 années. Il faut environ $200 par trimestre pour couvrir tous les besoins d'un enfant, la nourriture, les livres, les frais de scolarité, etc. Une somme difficile à réunir, mais pour lui, il est important de se concentrer sur les jeunes.
Je fais seulement ce que je peux. Avec mes amis, nous soutenons 18 enfants. Les gens nous demandent toujours pourquoi nous n'en prenons pas plus en charge. Nous leur disons que quand on a trop d'enfants, on doit diviser les ressources de manière si importante que tout le monde n'a pas tout ce dont il a besoin. Donc ce que nous disons, c'est que nous nous occupons uniquement de 18 enfants pour le moment parce que c'est ce que nous pouvons financer afin que chacun ait de tout. Donc nous en avons 5 à l'école primaire et les autres sont à l'école secondaire. Et en vérité, ils s'en sortent très bien.
Elijah est l'un des 18 jeunes que Maurice aide. C'est devant une église, celle-là même où il a été sélectionné pour faire partie du projet, que nous le retrouvons. C'est un moment d'émotion pour lui.
Je l'ai appelé oncle parce qu'il est mon gardien. Il m'a nourri, il a payé mes frais de scolarité. C'est très important parce que dans notre famille, nous n'avons pas d'argent pour recevoir une éducation comme celle qu'il me finance. Mais grâce à ce soutien, j'en ai les moyens. Si je n'allais pas à l'école, je pense que je ferais des briques au village.
Elijah rêve de devenir architecte. Maurice espère qu'un jour, il pourra dessiner les plans d'une maison commune pour les enfants qu'il aide.
Un reportage signé Charlotte Costet à Kampala. Anne-Sophie Robillard, qu'est-ce qui vous inspire ? Est-ce que c'est pas ça la solution, plus que de l'aide internationale, des grands projets, des grandes organisations internationales ? Est-ce que c'est pas à chacun de faire ce qu'il peut à sa porte ?
Ça fait partie de la solution, mais ça répond pas nécessairement au même problème. Bon, déjà, ce genre d'initiative a besoin de moyens, donc ces moyens peuvent venir de la communauté internationale, et puis elle doit s'appuyer sur un tissu économique, sur des infrastructures, sur aussi des services de base d'éducation et de santé pour tous. Il faut les deux.
Annabelle Hervieux.
Oui, ce reportage montre bien que l'éducation aujourd'hui, ça a toujours été d'ailleurs un service essentiel. C'est la base aussi pour garantir un avenir à toutes les populations jeunes en Afrique ou ailleurs. Et ça montre aussi, ça le montre pas le reportage, mais on sait aujourd'hui que l'éducation justement est aussi sous-financée. C'est un secteur qui a pas non plus été très valorisé ces derniers temps. On en parle beaucoup, mais financièrement, ça reste un secteur assez en déperdition. Un exemple juste sur l'aide de la France, 15% de l'aide de la France va vers l'éducation, ce qui est un chiffre tout à fait honorable. Mais finalement, quand on regarde dans le détail, 70% de ce financement-là reste en France. Et seulement 30% va dans les pays en développement. Donc voilà, il y a aussi regarder exactement qu'est-ce qui est financé et qu'est-ce qui peut justement permettre d'avoir accès à l'éducation pour tous les enfants dans les pays en développement.
Gilles Dufresneau, l'éducation ?
Oui, c'est très important parce que derrière l'éducation, il y a la qualité des emplois.
La productivité, vous y revenez.
La productivité, bien sûr, parce que en fait, beaucoup de pauvres, même lorsqu'ils travaillent, le plus souvent, quand ils ne sont pas éduqués, ont des emplois qui sont précaires. Et donc, quand on a des emplois qui sont précaires, on a des salaires qui sont moins élevés. Donc, l'éducation permet d'élever le degré de qualification des emplois que l'on occupe, donc d'être plus productif et d'être employé dans des secteurs qui rémunèrent un petit peu plus. C'est d'ailleurs ce qui explique la différence entre le secteur formel et le secteur informel. Beaucoup de gens qui ne sont pas éduqués, pas suffisamment éduqués, sont coincés, entre guillemets, dans le secteur informel. Et au contraire, le genre d'initiative qu'on vient d'entendre, ça permet de les sortir du secteur informel et de leur permettre d'élever, on va dire, leur niveau de rémunération.
Annabelle Hervieux.
Oui, et même au-delà de cet aspect économique, voilà, je voulais juste dire que l'éducation, ça permet aussi de renforcer le pouvoir des citoyens, d'avoir plus d'impact sur leur gouvernement, etc. Et ça permet aussi de renforcer la santé ou le planning familial. Enfin, beaucoup d'aspects sont dépendants de l'éducation.
Anne-Sophie Robillard, pour la dernière intervention de cette émission, est-ce que ce reportage ougandais est quelque chose que vous voyez répliquer ailleurs, des initiatives privées pour lutter contre la pauvreté?
Oui, il y a plein d'initiatives, il y a une société civile assez foisonnante et créative, et ça c'est...
Vous parlez de l'Afrique, là.
Je parle de l'Afrique, oui. Des ONG locales et internationales qui sont créatives et qui proposent des solutions.
Eh bien, c'est la fin de cette émission. Guillaume Munier était au pupitre technique. Merci à vous trois, Anne-Sophie Robillard, Annabelle Hervieux et Gilles Dufresneau, d'y avoir participé. Gilles Dufresneau, je rappelle que « Qu'il mange les brioches » est le titre de votre livre à paraître très bientôt, certainement. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. International.